RFI 14h ici à Paris, 8h à Port-au-Prince. Et après le journal de Karine Bélécha, une vingtaine de minutes consacrées à l'actualité d'Haïti et des Amériques, l'actualité également des territoires français de l'océan Indien. Le journal sera présenté par Odan Agiali. Bonjour.
Bonjour.
Et à la une, Odan, cette alerte sur la surpopulation carcérale en Guadeloupe.
470 places pour 720 détenus à la prison de Bemao. Les syndicats appellent les pouvoirs publics à réagir. Un détenu majeur a été placé dans le quartier des mineurs le week-end dernier. Témoignage à suivre.
À suivre également reportage en Argentine où une radio permet aux habitants, et cela depuis de plus de 80 ans, les habitants des zones les plus reculées du pays, de communiquer entre eux.
RFI Midi.
Et on ouvre ce journal, Karine, avec le procès de l'assassinat de Samuel Paty en France.
Au total, 8 adultes sont jugés et c'est la collégienne qui avait accusé le prof d'histoire géo d'avoir montré des caricatures de Mahomet jugées calomnieuses, d'avoir prétendument discriminé des élèves musulmans qui a été entendue ce matin. La jeune fille a déjà été jugée, mais c'est un témoin clé qui s'est présenté devant la cour d'assises spéciale de Paris. Après un cours sur la liberté d'expression et une campagne calomnieuse sur les réseaux sociaux, l'enseignant français avait été décapité par un jeune musulman radicalisé d'origine tchétchène en 2020. Amélie Beaucourt, bonjour.
Bonjour Karine.
Vous étiez à l'audience ce matin, l'adolescente a présenté des excuses.
Oui, c'est une jeune fille de 17 ans qui s'est avancée à la barre, une adolescente intimidée, le visage fatigué, la tête baissée. Elle s'est adressée à la famille de Samuel Paty, son professeur d'histoire géo. « Je suis désolée d'avoir détruit votre vie », c'est ce qu'elle a dit, les larmes aux yeux, des excuses qu'elle a aussi destinées à ses professeurs. Elle avait 13 ans au moment des faits, elle se décrit elle-même comme une collégienne turbulente qui perturbait la classe. C'est à cause de ça qu'elle a été exclue du cours de Samuel Paty et c'est pour dissimuler ses conneries, comme elle les appelle, qu'elle a menti, prétextant qu'elle avait été virée du cours parce qu'elle était musulmane. Elle racontait ce matin l'engrenage infernal d'un mensonge idiot, égoïste au départ, et qu'elle ne parvenait plus à stopper à mesure qu'il prenait des proportions hors du commun. C'est son père, Brahim Shtina, qui risque 30 ans de prison. Il était dans le box des accusés. Il est l'auteur d'une des vidéos qui ciblait donc Samuel Paty et qui a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux.
Amélie Beaucourt du service France de RFI.
La France, toujours dans ce journal. Le gouvernement va-t-il obtenir l'unanimité de l'Assemblée contre le traité du Mercosur?
Un débat puis un vote sont prévus cet après-midi. Une position commune des partis donnerait du poids à la position française face à la Commission européenne. Paris tente de fédérer et de bâtir une minorité de blocage. Après l'Italie, la Pologne s'est elle aussi rangée du côté du non au traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud. Et Carrefour a pris les devants. L'enseigne française a déjà promis de ne plus proposer de bœuf ou de porc en provenance d'Amérique latine. Au Brésil, cette annonce a provoqué un tollé. À Rio, les explications de Sarah Cozzolino.
Un protectionnisme à la française. C'est ainsi que le monde de l'agronégoce brésilien voit la décision du groupe Carrefour. Le secteur dénonce un boycott politique et opportuniste. Ingo Plugger est vice-président de l'ABAG, l'association brésilienne de l'agronégoce.
Ce n'est pas le consommateur qui proteste. Je pense qu'il est important de le souligner. Celui qui proteste, c'est le concurrent. Et c'est très différent. Donc il s'agit d'une entrave à la compétition.
La France importe de la viande brésilienne depuis 40 ans, bien qu'à très petite échelle. En représailles aux déclarations d'Alexandre Bompard, JBS, Marfrig et Masterboy, les trois plus gros conditionneurs de viande du pays, ont cessé d'approvisionner les 1200 supermarchés du groupe Carrefour au Brésil.
Nous avons toujours rempli les critères de Carrefour et ce sont des critères très exigeants, que ce soit d'un point de vue environnemental ou social. Donc ce qui est bon pour les Français doit aussi être bon pour les Brésiliens, les Uruguayens, les Argentins et les Paraguayens. Il ne peut pas y avoir de double critère.
Le boycott des fournisseurs brésiliens a été soutenu par le ministre de l'Agriculture. Ce lundi à Sao Paulo, des enseignes Carrefour commençaient déjà à manquer de viande dans leurs rayons. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Aux États-Unis, c'est la question des droits de douane qui font déjà réagir. Avant même l'arrivée de Donald Trump dans le bureau ovale, le président élu a promis hier d'augmenter fortement ses taxes sur les marchandises en provenance de Chine. Le Canada et le Mexique sont aussi visés. La Chine a réagi, elle ne veut pas d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Personne ne serait gagnant. C'est le message envoyé par Pékin à Donald Trump aujourd'hui.
Au Proche-Orient, Karine, la pression internationale s'accentue pour conclure un cessez-le-feu.
En Israël, le cabinet de sécurité se réunit cet après-midi pour valider ou non le texte négocié par les États-Unis et la France. Washington l'assure, l'accord est proche entre Israël et le Hezbollah libanais. Paris appelle les deux parties à se saisir au plus vite de cette opportunité. Selon le site d'information américain Axios, l'accord prévoit une trêve de 60 jours. 60 jours pour le retrait du mouvement chiite et de l'armée israélienne de la zone. À la place, l'armée libanaise doit se déployer dans le secteur sud. Les autorités libanaises, à l'image de son ministre des Affaires étrangères, disent espérer une trêve. Abdallah Abou Habib s'exprimait tout à l'heure lors d'une conférence internationale à Rome. On l'écoute.
Hopefully tonight, by tonight we'll have this ceasefire.
J'espère que d'ici ce soir, nous aurons un cessez-le-feu. Au fur et à mesure du retrait des Israéliens, environ 5000 soldats prendront leur place. Ils s'ajouteront aux 5000 déjà présents. Après 60 jours, la seule autorité au sud du Liban, ce sera l'autorité du gouvernement libanais.
Abdallah Abou Habib, ministre libanais des Affaires étrangères. En attendant, Israël multiplie les bombardements sur les fiefs du Hezbollah, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth, et à nouveau visé après un appel à évacuer, et autour du fameux fleuve Litani dans le sud, là où se concentrent les tensions. Sur le front de Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent aussi. Les autorités de l'enclave palestinienne ont annoncé la mort de 11 personnes tuées la nuit dernière, notamment au nord, à Jabalia.
Au Pakistan, à présent, la situation est très tendue à Islamabad.
Malgré l'interdiction de rassemblement décrétée par le pouvoir, les heurts entre les forces de sécurité et des milliers de partisans d'Imran Khan ont fait 4 morts parmi les forces de l'ordre. La foule converge vers le centre de la capitale et réclame toujours la libération de l'ancien Premier ministre. Imran Khan est emprisonné et poursuivi dans une centaine d'affaires concernant des manifestations violentes de ses partisans. Un panel d'experts de l'ONU avait réclamé sa libération, jugeant sa détention arbitraire. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour.
Le cortège de ses sympathisants s'est mis en route ce dimanche et a fini par atteindre la capitale. Les affrontements sont violents et la situation évolue rapidement.
Oui, Karine, on peut voir sur les réseaux sociaux des images qui attestent de la violence des manifestations dans Islamabad. Vous entendez des tirs répétés de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc de la part des forces de l'ordre. Les manifestants répliquent par des jets de pierre ou de bâtons. La marche vers la capitale des manifestants du PTI, le parti d'Imran Khan, s'est heurtée aux barricades montées à la hâte par les 20 000 policiers et paramilitaires déployés par le gouvernement. Des conteneurs empilés bloquaient l'accès à Dichok, une place centrale d'Islamabad, proche du siège des autorités. Mais d'autres images montrent des manifestants sur cette place en train de grimper sur les conteneurs. Une nouvelle preuve que depuis sa cellule, Imran Khan, premier ministre de 2018 à 2022, reste un acteur majeur de la politique pakistanaise. Sa femme, tout juste sortie de prison, a appelé un rassemblement pacifique, mais a aussi galvanisé ses soutiens pour exiger la libération de son mari. Les autorités restent fermes. Les rassemblements de plus de 4 personnes, vous l'avez dit, sont interdits dans plusieurs régions du pays, mais les écoles sont aussi fermées à Islamabad. Pour l'instant, les négociations entre les autorités et le parti d'Imran Khan n'ont rien donné.
Nicolas Roca du service international de RFI. Retour en France avec cette décision d'Anne Hidalgo. Elle ne rempilera pas à Paris. C'est la fin d'un suspense qui a duré plusieurs mois. L'actuelle maire de la capitale a annoncé qu'elle ne sera pas candidate à sa succession en 2026. Pas de troisième mandat, donc. Anne Hidalgo est maire de Paris depuis 2014. Et puis un mot de football pour finir ce journal. Brest veut encore y croire. Ce soir en Ligue des Champions, la petite équipe bretonne, invaincue lors des 4 premières journées, se déplace ce soir sur le terrain du FC Barcelone et espère poursuivre son parcours de rêve. Le PSG, lui, joue quasiment sa survie dans la compétition. L'équipe parisienne sera opposée au Bayern à Munich. Voilà Nemo, c'est avec cette info qu'on referme ce journal.
Ce journal présenté par Karine Bellicha. Merci Karine et à tout à l'heure.
RFI Midi, Cap Haïtien, 100.5 FM.
L'actualité en Haïti, 8h10 à Port-au-Prince, où l'on retrouve Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Nemo.
On démarre avec cette intensification des opérations de la PNH, la police nationale haïtienne. Parce que l'étau semble se resserrer autour du gang dirigé par Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Qu'en est-il à l'heure qu'il est ?
On sait que les opérations se déroulent. En effet, les témoignages font état d'intenses tirs depuis dimanche dans les quartiers du Bab Delma. Et ça continue. C'est le fief du chef de la coalition de gangs Vive Ensemble. D'autres quartiers du centre-ville débouchant sur Delma sont aussi le théâtre d'importantes opérations de police. C'est ce que rapportent les témoins. Mais la police ne communique pas. La mission multinationale dirigée par le Kenya indique de son côté que ces opérations vise à maîtriser les chefs de gang notoires. Des photos circulent aussi montrant des engins lourds mobilisés, mais le chef de gang Jimmy Cherizier ne cesse pas d'invectiver les autorités et la police sur les réseaux sociaux.
Ces dernières semaines, les activités des gangs ont provoqué la plus importante vague de déplacement depuis janvier 2023. 41 000 personnes forcées de fuir leur domicile en raison de l'escalade de la violence et de l'insécurité en seulement 2 semaines. Mais alors Godson, où fuient ces déplacés ?
Eh bien, très souvent, les gens fuient dans l'urgence sans savoir au préalable où ils vont se réfugier. Dans le meilleur des cas, une très faible minorité se paie un autre logement ailleurs, trouve une place chez un parent ou un ami. Beaucoup laissent la capitale, mais dans la plupart des cas, ils vont s'entasser dans des abris où les conditions de vie sont infrahumaines, des établissements scolaires, des églises ou autres bureaux publics. Souvent, ils font face à de nouveaux drames, séparation de famille, viol, vol, etc.
Godson, il y a un chiffre glaçant à la une d'Alter Press aujourd'hui. Jusqu'à la moitié des membres des groupes armés sont des enfants. Un chiffre qui a considérablement augmenté, plus 70% l'année dernière. C'est en tout cas le constat de l'UNICEF. Godson, est-ce que vos équipes sur le terrain font le même constat ?
Le constat, en effet, que les membres de gangs sont souvent très jeunes, ceux qui portent de lourdes armes lors de diverses attaques sont, dans la plupart des cas, des adolescents. Ils servent aussi souvent d'éclaireurs et d'informateurs pour les bandes criminelles. Très jeunes aussi, dans la majeure partie des cas, ceux-là que présente la police après ses coups de filet, ou bien parmi les cadavres de présumés bandits laissés sur la chaussée.
Un mot encore de cet incident diplomatique entre la France et Haïti survenu la semaine dernière. Port-au-Prince, fâché des propos du président français à l'encontre du Conseil présidentiel de transition, traité de con lors d'un déplacement au Brésil. La convocation de l'ambassadeur de France en Haïti qui a évoqué des propos malheureux d'Emmanuel Macron n'a, semble-t-il, pas suffi pour le nouveau ministre haïtien des Affaires étrangères. L'incident est clos. Mais peut-être pas pour le CPT qui était, lui, directement visé.
Oui, c'est Edgar Leblanc-Fils, ancien président du CPT, qui déclare s'insurger contre les propos désobligeants, indignes et insultants proférés par le président français à l'encontre des dirigeants haïtiens. Leblanc assimile la déclaration de Macron à un prétexte utilisé pour ternir l'image d'Haïti et de ses dirigeants après que la double dette de l'indépendance a été portée à la tribune des Nations Unies en septembre 2024. C'est lui-même qui avait prononcé ce discours à l'ONU.
Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Merci Godson.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Retour sur cette annonce hier faite par Donald Trump à quelques semaines de son retour maintenant à la Maison-Blanche. Le président élu entend dès ses premiers jours à Washington augmenter les droits de douane sur les produits venant de Pékin, du Canada et du Mexique, des tarifs douaniers qui augmenteraient de 25% sur les produits en provenance de ces deux derniers pays. Évidemment, cela a provoqué de rapides et de vives réactions côté canadien. Et pour cause, 75% des exportations du pays ont pour destination les États-Unis. Le dollar a perdu 1% de sa valeur sur place. Et plusieurs élus apportent leur soutien au Premier ministre Justin Trudeau pour défendre l'économie du Canada. À Québec, la correspondance de Pascal Guéricola.
Rapidement, la vice-première ministre du Canada et le ministre de la Sécurité publique ont rappelé les relations étroites qui unissent le Canada et les États-Unis. Ils ont aussi mis en lumière l'importance du marché canadien pour les exportateurs américains. Une façon de montrer l'interdépendance entre les économies des deux pays. À titre d'exemple, 60% des importations américaines de pétrole brut viennent de l'Ouest canadien. Pour le premier ministre du Québec, la hausse annoncée de 25% des tarifs douaniers représente un risque énorme pour l'économie québécoise et canadienne. Il a assuré le premier ministre du Canada de son soutien. Tout comme son homologue de l'Ontario, une province qui vit en partie de la construction automobile de part et d'autre de la frontière. Le premier ministre provincial a demandé à Justin Trudeau de tenir de toute urgence une réunion d'équipe Canada. Ce groupe d'élus et de chefs d'entreprise a pour objectif de faire valoir le point de vue canadien à l'administration américaine. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Et cette volonté de Donald Trump d'augmenter les droits de douane, on continue d'en parler. Je rappelle ces chiffres, 25% sur les produits canadiens et mexicains, la Chine également concernée, le Canada et le Mexique qui partagent pourtant un marché commun, vous l'avez entendu, avec les États-Unis. Le traité date d'il y a 30 ans, il a été renégocié sous Donald Trump en 2016 et doit faire l'objet d'une révision en 2026, sous Donald Trump également. Donc, le sujet était déjà brûlant, bien avant les annonces de celui qui va faire son retour à la Maison-Blanche. Mexico étant accusé, sur fond de guerre commerciale entre Pékin et Washington, d'être une sorte de porte d'entrée pour les marchandises chinoises sur le continent. Pour faire le point, on appelle notre correspondante au Mexique, Gwendolina Duval. Gwendolina, le futur de cet accord est donc suspendu aux décisions du Mexique. Mais alors, Gwendolina, quelle est la position des autorités mexicaines ?
Le Mexique n'a aucune intention de sortir du traité de libre-échange et veut que ce dernier continue d'exister. C'est la position affirmée par la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Elle a même envoyé un signal pour tenter de rassurer ses voisins. Son gouvernement va prochainement présenter un plan pour renforcer son économie nationale et diminuer les importations en provenance de Chine et plus généralement d'Asie. Ici, au Mexique, les déclarations du Premier ministre canadien ont résonné comme une douche froide. Elles accentuent les incertitudes provoquées par les positions agressives de Donald Trump vis-à-vis du Mexique. Les deux voisins du Nord reprochent au pays de servir une triangulation commerciale, c'est-à-dire d'exporter des produits chinois, soi-disant réétiquetés « made in Mexico » aux États-Unis et au Canada, en évitant donc les taxes.
Mais est-ce vraiment le cas? Le Mexique sert-il vraiment de plateforme tournante des produits chinois pour le marché nord-américain? Ou bien c'est exagéré?
Le Mexique s'en défend, évidemment. Selon Claudia Sheinbaum, cette idée est fausse. De fait, il est compliqué de parler véritablement d'une triangulation puisque tant les États-Unis que le Canada importent même beaucoup de produits chinois. Mais la préoccupation vient plutôt de l'augmentation des investissements chinois au Mexique. Et ça, c'est vrai. Ils ont explosé en 2022. Le Mexique, qui veut profiter de ce qu'on appelle le nearshoring, la relocalisation des activités depuis l'Asie vers l'Amérique du Nord, attire de plus en plus les entreprises chinoises. Ces dernières s'installent au Mexique, notamment dans le secteur automobile.
Alors Gwendolina, il y a une échéance. En 2026, le traité doit être révisé. Normalement, il s'agit juste d'une révision, mais il semble de plus en plus qu'on se dirige vers une renégociation.
Oui, les sonnettes d'alarme ont commencé à retentir au moment de l'élection de Donald Trump. Le prochain occupant de la Maison-Blanche affiche des positions très protectionnistes et il a déjà ouvert la porte à l'idée d'instaurer des taxes sur les envois mexicains pour mettre la pression sur les sujets migratoires ou sur la lutte contre le trafic de drogue. Une chose est sûre, pour le Mexique, c'est impensable de renoncer à cet accord de libre-échange. Il ne fait pas partie du Mercosur, il n'est pas question qu'il y rentre. Son économie est ultra dépendante de ses voisins du Nord, des États-Unis surtout. Ce n'est pas le cas du Canada, qui envoie finalement assez peu de marchandises au Mexique. On sent que la situation a changé. Le gouvernement canadien, lors du dernier mandat de Donald Trump, avait plutôt joué le rôle d'allié. Ce n'est plus le cas. Le Canada s'apprête à avoir des élections compliquées l'année prochaine et donc les trois pays, les trois amis comme on les appelle, vont devoir trouver un nouvel équilibre.
Merci Gwendolina Duval, correspondante de Radio France Internationale à Mexico.
RFI Midi.
Nemo en peace.
Et nous sommes ensemble encore pour une dizaine de minutes jusqu'à 13h30, temps universel. Direction l'Argentine, où une émission de radio permet aux habitants des zones les plus reculées de Patagonie de communiquer entre eux, dans l'ouest du pays, notamment dans la région de Bariloche. Il n'y a pas de réseau, alors, depuis plus de 80 ans, la radio locale Radio Gaucho diffuse quotidiennement un programme d'une vingtaine de minutes au cours duquel le présentateur lit les messages qu'il reçoit. Certains sont utiles, d'autres plus anecdotiques, mais tous, en tout cas, sont transmis aux habitants pour communiquer. Pour les gauchos, ces gardiens de troupeaux qui vivent dans les zones de la Pampa argentine, cette solution est rapidement devenue indispensable. Reportage Arnaud Fischer.
Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica señor Martínez.
Cela fait plus de 80 ans que Radio Nacional Bariloche a lancé Mensajes al Poblador, son service de messagerie en milieu rural. Il fonctionne encore aujourd'hui pour couvrir certaines zones blanches qui ne sont pas couvertes par le réseau. Ruben Dario Lagrasse a présenté le programme pendant 18 ans.
La raison principale qui explique la création de cette émission de radio, c'était la volonté de rester en contact avec ceux qui vivent dans des zones éloignées des grands centres urbains. Comme ça, ils communiquent par le biais de l'émission.
Dans les grandes étendues du sud de l'Argentine vivent une majorité de gauchos, une population fruit d'un métissage entre immigrés espagnols et autochtones. Gabriela Littré est l'autrice d'une thèse sur leur culture.
Le gaucho est une personne qui vit dans la Pampa. C'est une personne qui vit sans frontières, dans un paysage ouvert. Il est très résilient et libre. Et si le prix à payer pour être libre est de vivre dans des zones éloignées, alors il le paye.
Elle-même descendante de gaucho, elle insiste sur le rôle social que joue la radio pour cette communauté.
Demander à un gaucho de s'installer en ville, c'est comme mettre un oiseau en cage. La radio leur apporte une présence.
Radio Nacional Bariloche émet à 400 km à la ronde. Elle couvre de nombreux villages en Argentine, mais aussi au Chili, parfois peuplé de moins de 10 habitants. Pour Gabriela Littré, les gauchos écoutent constamment la radio, mais pas seulement pour son service de messagerie.
Les gauchos s'envoient des messages pour se souhaiter bon anniversaire, se saluent entre voisins, mais il y a une autre chose très importante, les prévisions météorologiques. Combien il a plu, où il a neigé, combien de millimètres, toutes ces informations leur permettent de prendre des décisions. La radio leur est vitale.
En 2006, la radio a eu un problème technique et n'a pas pu émettre pendant plus d'un mois. Ruben Dario Lagrasse, l'ancien présentateur de Mensajes al Poblador, se souvient que la situation avait perturbé les habitants de la région.
Des paysans gauchos venaient à cheval à la radio pour nous demander pourquoi ils ne pouvaient plus nous écouter et nous envoyer des messages.
En plus de 30 ans à Radio Nacional Bariloche, le présentateur argentin a pu observer une évolution dans la forme des messages envoyés. Si aujourd'hui la radio reçoit des messages par WhatsApp ou par mail, il fallait faire autrement à ses débuts.
Les messages étaient écrits sur n'importe quel type de papier, un carton de cigarette par exemple. Puis le paysan s'arrangeait pour le donner à quelqu'un qui passait par Bariloche. Ils arrivaient toujours, peu importe la manière. C'était très pittoresque de les voir écrits comme ça sur des petits papiers, mais le message était passé. C'est le plus important, non ?
Magdalena Porma, Argentine d'origine Mapuche, vit à Camacho, un petit village à 110 km à l'est de Bariloche. À 57 ans, elle a vécu toute sa vie avec la radio. Aujourd'hui encore, elle ne pourrait vivre sans.
La communication n'arrivait pas jusqu'à nous. Il n'y avait ni téléphone, ni Internet. Je pense que la radio était la seule à atteindre les villages et tous les foyers. L'émission nous délivrait alors des messages. Parfois, il s'agissait d'un parent malade, d'un rappel pour une procédure. Tout est question de coordination. La radio est vitale ici, comme à l'ancien temps. Et elle est encore très utile socialement dans notre région.
Présidente d'une coopérative de petits producteurs, l'habitante de Camacho utilise le service de messagerie de Radio Nacional Bariloche pour planifier des réunions et se coordonner avec ses adhérents. Un programme qui a donc prouvé son utilité et participe au rayonnement culturel dans la région. Preuve de son succès, il a déjà été imité par au moins deux autres radios en Patagonie.
Reportage d'Arnaud Fischer en Argentine, où il est 10h24. Un reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. RFI 14h24 ici à Paris, le journal des territoires français de l'océan Indien, présenté ce mardi par Odane Agiali. Rebonjour Odane.
Bonjour.
Et à la une, toujours cette nouvelle alerte sur la surpopulation carcérale en Guadeloupe.
720 détenus à la prison de Bemao pour 470 places. Le syndicat UFAPUNSA Justice dénonce des conditions indignes d'incarcération, surpopulation carcérale et ses conséquences. Le week-end dernier, un détenu majeur a été placé dans le quartier des mineurs. Karine Prétérien, secrétaire locale UFAPUNSA Justice au centre pénitentiaire de Bemao, jointe par Chantal Horn de Guadeloupe la Première.
Si aujourd'hui on vient à pouvoir les affecter des majeurs chez des mineurs, on se pose la question effectivement de savoir si demain on n'aura pas une détention mixte. Cette promiscuité, elle engendre de la violence et c'est de la violence entre personnes détenues mais aussi envers le personnel. Quand vous partagez une cellule dans laquelle vous êtes censé être 6, vous vous retrouvez des fois 13 dedans, on se doute bien que ça crée des tensions. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, s'il faut qu'on se mobilise pour qu'on soit entendu et qu'ils trouvent d'autres solutions quant aux affectations des personnes détenues sur l'établissement, ben on le fera.
Il y a un mois, des gardiens de la prison de Bemao avaient bloqué le centre pénitentiaire après l'attaque d'un détenu contre un surveillant, une action pour dénoncer déjà la surpopulation carcérale. Le groupe est présent depuis plus de 50 ans dans la région anti-Guyane. L'assureur Generali et sa filiale GFA Caraïbes ont décidé de suspendre les nouveaux contrats d'assurance pour les entreprises aux Antilles, raison invoquée les récents mouvements sociaux en Martinique qui ont coûté trop cher à la compagnie Franck Aristide.
70 demandes d'indemnisation en Martinique pour un coût de 20 millions d'euros. L'essentiel d'entre elles concerne des sinistres liés aux incendies, avec des dommages sur les bâtiments, les machines, les produits et par conséquent d'importantes pertes d'exploitation. Le patron de Generali trouve la facture particulièrement salée. Dans une interview parue dans le journal L'Argus de l'assurance, il explique que sa société va donc suspendre la souscription risque d'entreprise aux Antilles. En clair, sa filiale chez nous, GFA Caraïbes, ne prendra pas de nouveaux contrats. Par contre, elle ne résiliera pas ceux déjà signés. L'assureur se dit, je cite, « obligé de prendre du recul et demande un environnement sécurisé où il y a maintien de l'ordre et de la cohésion sociale pour mutualiser les risques et faire face aux aléas. Il explique également avoir de plus en plus de mal à obtenir des recours vis-à-vis de l'État lorsque ce maintien de l'ordre fait défaut. Cette décision n'est pas une première pour le groupe Generali. Elle avait déjà été prise en Nouvelle-Calédonie à l'issue des derniers troubles sociaux.
Et puis 26 novembre 2014, 26 novembre 2024, 10 ans que le Groca a fait son entrée sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, musique, chant, danse. Le Groca est né en Guadeloupe de la révolte contre l'esclavage, musique qui s'exprime à travers les tambours K. Le Groca, c'est donc le patrimoine guadeloupéen et c'est aussi celui de l'humanité. Bonne journée.
Bonne journée, Odan. Odan Haji Ali pour le journal des Outre-mer. À demain, 14h27, ici à Paris. Un peu de soleil pour refermer cette édition d'RFI Midi. Vous allez vite reconnaître la mélodie, j'en suis sûr. Retour en 1992 avec le titre Sweet d'Inner Circle.
RFI Midi.
Paris, c'était Sweat d'Inner Circle et c'est déjà la fin de ces deux heures d'actualité, deux heures d'RFI Midi. Merci à Yann Eligouin à la réalisation, à Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Dans 30 petites secondes sur la radio du monde, vous retrouvez De Vive Voix. Il sera 13h30 en temps universel. Et moi, je vous dis à demain pour une autre édition d'RFI Midi. La 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 long, long, les long, long, long. Ouh, yeah. La 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 long, la 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 long.